podcast RFHT.
Bonjour à tous, je suis le professeur Hervé Lévesque, spécialiste en médecine interne qui travaille depuis plusieurs années sur les maladies thrombotiques et hémorragiques. Nous revenons vers vous pour un nouveau sujet sur une maladie hémorragique fréquente, le plus souvent héréditaire, à savoir la maladie de Willebrand. Dans ce podcast, nous allons surtout aborder la maladie de Willebrand, mais nous discuterons aussi dans un deuxième temps des formes acquises, beaucoup moins connues et qui posent des problèmes spécifiques. Pour tenter de répondre à ces questions, nous échangerons avec le docteur Benoît Guillet, médecin hématologue, spécialisé en hémostase bioclinique et médecin coordonnateur du centre maladies hémorragiques rares du CHU de Rennes. Benoît, bonjour. Tout d'abord, pourrais-tu nous dire en quelques mots ce qu'est la maladie de Willebrand et nous en préciser sa fréquence ?
Bonjour Hervé, merci. La maladie de Willebrand est une maladie héréditaire qui est liée à une anomalie du gène du facteur Willebrand sur le chromosome 12, qui est responsable d'un déficit quantitatif et ou qualitatif du facteur Willebrand. Sa transmission est habituellement autosomique dominante, sauf deux formes, le sous-type de N et le type 3. Cette protéine circulante est importante pour l'hémostase. D'une part, l'hémostase primaire, puisque le facteur Willebrand permet l'adhésion plaquettaire à la paroi vasculaire lors d'une brèche vasculaire. Cette première étape d'adhésion plaquettaire est essentielle pour constituer le caillot plaquettaire qui doit arrêter en urgence ou ralentir le saignement. Le facteur Willebrand est également directement impliqué dans l'agrégation plaquettaire dans des régions artérielles à force de cisaillement particulièrement élevée, telles que les bifurcations carotidiennes. D'autre part, le facteur Willebrand est indirectement impliqué dans la coagulation plasmatique, qui est la deuxième étape de l'hémostase amenant à consolider le caillot plaquettaire par la synthèse in situ de fibrine. Sa participation indirecte à la coagulation plasmatique est en fait en rapport avec son rôle de transporteur et de protecteur du facteur 8 circulant. On comprend ainsi, à partir de ces bases physiopathologiques, que les manifestations cliniques de la maladie de Willebrand sont des hémorragies. La prévalence des déficits en facteur Willebrand dans la population générale est estimée à environ 1%. Cependant, la prévalence des formes symptomatiques, donc avec des hémorragies et nécessitant un traitement, qui sont habituellement associés à des taux de facteur Willebrand plus bas que les formes asymptomatiques, serait de 1 pour 10 000. Mais la prévalence réelle de la maladie de Willebrand secondaire à une anomalie avérée du gène du facteur Willebrand n'est pas précisément encore connue. Par contre, la prévalence de la forme sévère, dite maladie de Willebrand de type 3, de transmission autosomique récessive, est estimée entre 0,5 et 1 pour 1 million.
Donc une maladie fréquente, héréditaire, souvent non diagnostiquée ou alors de manière tardive à l'occasion de complications hémorragiques sévères. Peux-tu en fait nous préciser le tableau clinique classique et surtout chez quel patient savoir l'évoquer ?
Alors oui, le tableau clinique spécifique de la maladie de Willebrand est celui classique d'une anomalie de l'hémostase primaire. On comprend bien avec les bases physiopathologiques indiquées juste avant, marquées par des saignements donc cutano-muqueux. Nous y retrouvons donc les ecchymoses, les saignements prolongés sur des coupures ou des incisions chirurgicales, des épistaxies, des saignements buccaux, les saignements gynécologiques et particulièrement pour certains types et sous-types des hémorragies digestives, notamment sur lésions d'angiodysplasie intestinale. Certains de ces saignements peuvent être graves d'emblée en rapport avec le volume hémorragique et sa localisation, dont notamment la localisation gastro-intestinale. Leurs conséquences à moyen ou long cours doivent également être bien évalués, avec en particulier l'anémie par carence martiale comme pour les ménorragies récurrentes. D'autre part, la maladie de Willebrand est associée à une expressivité biologique très variable, c'est-à-dire des taux de facteurs Willebrand différents, y compris au sein de la même famille, chez des apparentés ayant pourtant la même anomalie génétique. Cette particularité est en partie responsable de l'expressivité clinique variable, mais celle-ci existe également à des taux de facteur Willebrand similaires. Enfin, à ce tableau cutano-muqueux, on peut ajouter une note hémorragique de type coagulation plasmatique qui sera directement fonction du taux de facteur 8 associé au déficit en facteur Willebrand, avec notamment des hématomes, voire des hémarthroses, que l'on retrouve dans les formes à taux de facteur 8 les plus bas, comme dans la maladie de Willebrand sévère ou de type 3.
Merci Benoît, tu nous as précisé que cette maladie héréditaire de l'hémostase primaire était de transmission autosomique dominante, donc touchant dans une même proportion autant les hommes que les femmes, alors que finalement la clinique elle parle surtout chez les femmes. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Oui, il n'est pas rare de retrouver chez les femmes des saignements plus fréquents et nécessitant des traitements pro-hémostatiques, alors que cette maladie autosomique affecte bien de manière identique les deux sexes. Ceci est principalement lié aux saignements gynécologiques de type ménorragie ou ménométrorragie fréquente avec cette pathologie. Mais il est important de garder à l'esprit que même si un homme avec maladie de Willebrand peut présenter un phénotype hémorragique moins marqué, par exemple avec très peu d'antécédents hémorragiques, il a le même risque de saignement au cours d'une chirurgie ou après cette chirurgie et en situation post-traumatique qu'une femme.
Merci pour ces précisions. On voit bien en fait qu'il s'agisse de manifestations hémorragiques le plus souvent modérées, souvent apparemment banales. Peux-tu nous préciser finalement le bilan biologique de débrouillage à envisager, s'il y a des précautions préanalytiques éventuelles et les facteurs cliniques ou le contexte qui pourrait en modifier le résultat ?
Alors, le bilan biologique à visée diagnostique du maladie de Willebrand repose sur ce que l'on appelle le bilan Willebrand, qui comprend le dosage de facteurs Willebrand activité, de facteurs Willebrand antigène, ainsi que le facteur 8. Le groupe sanguin sera également très important à rechercher, car le groupe sanguin O peut être fréquemment associé à des formes mineures, qu'on va appeler des déficits mineurs en facteur Willebrand liés au groupe O, avec des taux de facteur Willebrand modérément diminués, mais restant habituellement au-delà de 30-40%. Ces derniers déficits ne sont habituellement pas liés à une anomalie du gène du facteur Willebrand. En cas de déficit, il est important de répéter ces dosages au moins 2-3 fois. Ça, c'est un élément très important sur de nouveaux prélèvements sanguins, car les taux de facteur Willebrand sont très fluctuants, car dépendants de nombreux facteurs. Alors, on peut citer parmi ces facteurs les facteurs environnementaux importants, tels que le cycle menstruel, les œstroprogestatifs, l'existence d'une grossesse en cours, le stress ou l'exercice physique. Des facteurs pathologiques peuvent également artificiellement augmenter le taux de facteur Willebrand, tels que le syndrome inflammatoire, certaines hépatopathies, en particulier les cirrhoses, le cancer, les pathologies cardiovasculaires ou veineuses, etc. Ainsi, il est important que ce bilan Willebrand soit réalisé en dehors de ces différents facteurs que je viens de mentionner, quitte à le refaire plusieurs fois si besoin.
Merci. En fait, on voit bien que le diagnostic biologique n'est pas toujours simple. Chez quels patients ou chez quelles anomalies du bilan de débrouillage faut-il envisager un bilan auprès d'un laboratoire spécialisé de recours ?
Une exploration complémentaire à ce bilan Willebrand de débrouillage sera nécessaire pour toutes les formes avec taux de facteur Willebrand en dessous de 40%, puisque encore maintenant, nous considérons en France que ce seuil définit la maladie de Willebrand. Ces tests complémentaires devront être réalisés dans un service spécialisé afin de confirmer le déficit, de définir le niveau de risque hémorragique, de mettre en place l'enquête familiale et de diagnostiquer le type et le sous-type de la maladie de Willebrand. Il sera ainsi réalisé différents tests spécialisés tels que l'agrégation plaquettaire à la ristocétine, également appelé RIPA, test RIPA, un test de liaison du facteur Willebrand au collagène ou un test de liaison du facteur Willebrand au facteur 8 si le taux de facteur 8 est bas, une analyse multimère et enfin une analyse génétique du gène du facteur Willebrand. Certaines de ces analyses complémentaires et la génétique sont réalisées dans le cadre du centre de référence maladie de Willebrand.
Merci pour ces précisions. D'après tes propos, il semble qu'en fait, il y ait plusieurs types de maladies de Willebrand. Peux-tu nous en préciser simplement lesquelles et surtout si certaines nécessitent un suivi en milieu spécialisé, notamment pour envisager une prophylaxie dans les situations à risque ou une prise en charge spécifique ?
Alors, on peut distinguer deux grandes formes. Le déficit mineur facteur Willebrand avec taux de facteur Willebrand supérieur à 40%, qui a été mentionné tout à l'heure, et la vraie maladie de Willebrand avec un taux de facteur Willebrand en dessous de 40%. Celle-ci doit systématiquement conduire à un avis spécialisé pour une prise en charge spécifique. Et la maladie de Willebrand donc comprend trois types. Le type 1, qui est un déficit quantitatif modéré en facteur Willebrand, mais dont le taux peut descendre suffisamment bas pour être responsable de saignements anormaux, parfois importants. Le type 2, qui est un déficit qualitatif en facteur Willebrand, avec plusieurs sous-types liés à des anomalies génétiques spécifiques. Et enfin, le type 3, qui est la forme sévère, avec absence de facteur Willebrand circulant. Ce dernier type est associé à un déficit en facteur 8, comme chez les hémophiles A modérés ou sévères, et comme chez eux, est habituellement associé à des hémorragies de type anomalie de la coagulation, avec des hématomes ou des hémarthroses en plus des saignements cutano-muqueux particuliers à la maladie de Willebrand. Il faut noter que cette forme étant autosomique récessive, il existe peu d'antécédents familiaux. D'autre part, l'existence de la maladie de Willebrand de type 3 et de certaines formes de maladie de Willebrand de type 1 et de type 2 à taux de facteur 8 diminué oblige à réaliser un dosage systématique de facteur Willebrand devant tout déficit isolé en facteur 8, permettant le diagnostic différentiel indispensable entre maladie de Willebrand et hémophilia. J'ajouterai en plus que qu'en plus de la maladie de Willebrand que je viens de définir, un suivi en milieu spécialisé sera nécessaire pour les déficits mineurs avec facteur Willebrand au-delà de 40% qui sont associés à une symptomatologie hémorragique. Ceci permettra de rechercher d'autres anomalies d'hémostase telles qu'une thrombopathie ou anomalie fonctionnelle plaquettaire et d'adapter au mieux la prise en charge hématologique des gestes invasifs et des situations traumatiques. Alors Hervé, à mon tour de te poser des questions. Nous venons de parler de la maladie de Willebrand sous sa forme héréditaire, à transmission le plus souvent autosomique dominante. Existe-t-il des formes acquises ?
Alors effectivement, il y a des formes acquises. Il s'agit de formes relativement rares, mais dont la fréquence est probablement sous-estimée. Le syndrome de Willebrand acquis devra être suspecté chez un patient qui présente une symptomatologie hémorragique d'apparition tardive, sans antécédents personnels ou familiaux de saignement. Les manifestations hémorragiques sont les mêmes que celles que tu as décrites tout à l'heure, à savoir les mêmes que celles de la maladie héréditaire, à savoir des saignements avant tout cutanéo-muqueux, des ecchymoses, des épistaxis, des gingivorragies, des métrorragies, des hémorragies digestives, notamment celles liées à des angiodysplasies. Elles sont spontanées ou provoquées par un traumatisme minime et comme dans le Willebrand constitutionnel, la problématique majeure, c'est les hémorragies per- ou post-opératoires. On a une expression clinique qui est très variable, allant de l'absence de symptômes à des hémorragies sévères, l'intensité clinique étant cependant faible ou modérée dans la plupart des cas. Et comme dans le Willebrand constitutionnel, un certain nombre de facteurs vont conditionner la sévérité des manifestations hémorragiques, et notamment l'importance du déficit du facteur Willebrand, le type de déficit ou encore le mécanisme en cause. Néanmoins, la tendance hémorragique semble plus forte chez des patients ayant des exceptionnelles formes auto-immunes dont on reparlera tout à l'heure.
Merci Hervé. Donc à l'évidence, plusieurs étiologies avec des mécanismes physiopathologiques différents.
Oui, effectivement, de nombreuses associations ou facteurs favorisants ont été décrites avec des mécanismes physiopathologiques suggérés différents. Par exemple, au cours de l'hypothyroïdie, on incrimine une diminution de la synthèse du facteur Willebrand. On peut avoir une protéolyse excessive au cours du rétrécissement aortique. On peut avoir une absorption du facteur par des cellules tumorales dans certaines hémopathies ou dans certaines tumeurs solides, notamment le néphroblastome ou certains autres carcinomes. Et puis, on peut avoir des formes auto-immunes, notamment au cours des maladies auto-immunes, mais également en association avec des gammapathies monoclonales de signification indéterminée. Et on a, comme dans l'hémophilie acquise, d'authentiques Willebrand acquis avec auto-anticorps anti-facteur Willebrand. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est les syndromes lymphoprolifératifs qui représentent près de 50% des formes associées au syndrome de Willebrand acquis. C'est avant tout des gammapathies monoclonales de signification indéterminée. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a certains médicaments qui peuvent induire un syndrome de Willebrand acquis, tels la sylvalproïque ou encore les hydroxyéthylamidons utilisés comme substitut du plasma.
De fait, un diagnostic souvent méconnu, à savoir évoqué, et une expression clinique très variable dans les formes héréditaires. Certaines formes sont-elles particulières ? Un avis spécialisé est-il nécessaire ?
Alors, au cours de l'hypothyroïdie, dont on sait que c'est fréquent, puisque c'est retrouvé dans 60% des cas, il est inutile d'en faire la recherche, car l'anomalie disparaît avec la correction de l'hypothyroïdie. De même, dans les formes médicamenteuses, l'arrêt de la molécule incriminée permet rapidement la normalisation des tests. Dans les autres cas, il faut savoir évoquer et confirmer le diagnostic afin de mettre en place des mesures préventives, comme au cours des formes héréditaires, notamment lorsqu'on envisage un contexte chirurgical ou qu'on est confronté à des hémorragies post-opératoires inattendues. Et dans ces cas-là, il faut savoir recourir à des avis spécialisés. Deux situations sont cependant très particulières. Tout d'abord, les formes associées au rétrécissement aortique et les formes par auto-anticorps anti-facteur Willebrand. Dans les formes associées au rétrécissement aortique, il s'agit aujourd'hui d'une situation qui est bien connue des anesthésistes travaillant en chirurgie cardiaque. On appelait cela autrefois le syndrome de Hyde, associant des hémorragies digestives au rétrécissement aortique. Et dans ces situations, le Vilebrand acquis est secondaire aux forces de cisaillement induites par le rétrécissement aortique, avec une fragmentation des hauts poids moléculaires du Vilebrand et une augmentation de l'activité Adams-13. Ces patients, comme tous les Vilebrands acquis, s'expriment par des manifestations surtout per- et post-opératoires et nécessiteront une prophylaxie adaptée au risque hémorragique. Pour les formes auto-immunes par auto-anticorps, un avis spécialisé est également indispensable afin de discuter éventuellement un traitement d'épreuve par immunoglobuline polyvalente qui corrige le plus souvent en quelques heures le test biologique et ce pendant plusieurs semaines, 3 à 5 semaines, ce qui permet éventuellement d'anticiper un geste chirurgical à froid, telle une prothèse de hanche par exemple, si cela s'avérait nécessaire. Dans le même ordre d'idée, ces patients avec Vilebrand acquis, qui sont souvent post-symptomatiques, il n'est pas inutile de savoir s'ils sont répondeurs à des traitements simples afin de pouvoir anticiper ou gérer des saignements. Ainsi, il est souvent utile aux cliniciens de savoir si ce patient, et je crois que cela est vrai pour les Vilebrand constitutionnels, tolèrent la desmopressine et y répondent, puisque dans 30% des cas, on a une réponse significative. En effet, cette molécule par voie nasale ou injectable, elle libère du facteur Vilebrand de l'endothélium avec un pic de facteur 8 vers la 30e minute et un pic de facteur Vilebrand en 90 minutes. Ça permettra de savoir en cas de mauvaise tolérance une inefficacité, s'il faut, en cas de manifestation hémorragique sévère, recourir à des traitements plus onéreux, réservés à certains centres, notamment les concentrés de facteurs Vilebrand, que ces derniers soient purifiés ou enrichis en facteur 8.
Merci Hervé pour toutes ces précisions sur le syndrome de Vilebrand acquis. Ainsi, on a deux formes de maladie de Vilebrand, héréditaire et acquise, qui vont nécessiter un avis et un suivi spécialisé pour caractériser précisément le diagnostic et assurer les traitements antihémorragiques adéquats. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur la maladie de Vilebrand. Au revoir.
Podcast RFHT.